Notre vie, je m'excuse, je reprends. Notre vie n'est que rencontre. Rencontre avec nos proches, avec les autres, avec nous-mêmes. Rencontre avec l'esprit au moment où on ne l'attendait pas, où on ne l'attendait plus. La rencontre avec l'esprit, c'est à partir de ce sillon biblique que je vous propose, des rencontres que nous offre ce texte de Jean 3. La première rencontre est celle du verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends déjà sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et cette rencontre, elle est tout à fait personnelle, mais elle est très forte pour moi. Elle est liée au cinéma. Je l'ai vécu, c'était en 1957, dans toute sa force, en découvrant le film du grand cinéaste qui était Robert Bresson. Le film s'appelle « Un condamné à mort s'est échappé ». Il fut primé à Cannes. Le scénario passionnant évoque une histoire réelle qui en plus nous concerne, nous, habitants d'Annecy. Elle s'est déroulée à Lyon sous l'occupation allemande. Le lieutenant André de Vigny, qui était membre de l'armée secrète en Haute-Savoie, est emprisonné pour fait de résistance au Fort Montluc. Il est condamné à mort. Il vit ses derniers jours avant l'exécution, mais se refuse totalement à l'idée de mourir. Il va vivre, il veut s'évader. Dans cette tristement célèbre de prison de Lyon, le Fort Montluc, il croise entre autres Roland de Pury, qui était pasteur du Temple de la Lanterne à Lyon et qui fut arrêté au début d'un culte dans cette année 1944. Alors, le film de Bresson évoque avec une minutie très grande la préparation de l'évasion. Comment faire une corde avec des draps? Comment la cacher? Comment démanteler une porte de bois? Comment en faire des instruments? Comment franchir un mur d'enceinte? Alors, une petite parenthèse, cette porte de bois existe. Elle existe même à Morette, vous savez, au musée de Morette. Quand vous entrez, vous pouvez demander à droite, il y a cette porte de la cellule 107 qui était la porte qu'a démantelée de Vigny pour pouvoir tailler des instruments afin de s'évader. Comment éviter une sentinelle? Comment se débarrasser d'une sentinelle? Réalité très concrète d'une évasion. Une question se pose, que vous pouvez vous poser, mais quel rapport avec le texte de Jean? Bien, il y en a un. Il y en a un, c'est justement que ce film possède un sous-titre, ce qui est tout à fait exceptionnel, un sous-titre assez étonnant. Le titre, c'est donc « Un condamné à mort s'est échappé » ou « L'esprit souffle où il veut ». Alors du coup, tout prend un autre sens. Il est exceptionnel donc qu'un film porte un sous-titre, mais bien évidemment, le cinéaste nous invite ainsi à une réflexion sur cette évasion et il nous conduit à percevoir une autre dimension au-delà des actions pratiques, une autre lecture de l'événement. En réussissant son évasion, ce prisonnier condamné à mort, notre semblable, notre frère, dirait le poète Charles Baudelaire, ce prisonnier condamné à mort accède à une nouvelle vie, je pèse le terme. Son évasion résonne en écho au texte biblique de Jean. Il faut que vous naissiez de nouveau. Oui, le prisonnier qui s'est évadé de Montluc en 1944 vit, au sens concret du terme, une nouvelle naissance. Bien évidemment, la rencontre fondamentale, primordiale de ce matin, c'est la rencontre que nous faisons avec Nicodème, ce notable de Jérusalem. Alors, cette rencontre de Nicodème, notable, juif, reconnu, important, l'une des références, avec un jeune prophète qui vient de Galilée, Yeshua, Jésus. Il y a quelque chose d'un peu étonnant. Nous avons quelques informations sur Nicodème, je vous en ai donné déjà quelques-unes. Il jouait un rôle important dans la vie politique et économique de la cité de Jérusalem, une grosse fortune de la ville. Il est membre du Sanhédrin et incarne parfaitement l'autorité religieuse dans la communauté juive de l'époque. Docteur de la loi, il est un théologien renommé que Jésus lui-même qualifie de « docteur d'Israël ». C'est au verset 9. Rencontrer Yeshua, Jésus, qui est lui aussi rabbi, n'est donc en aucun cas un geste anodin de sa part. Il est intrigué par les paroles et gestes de ce jeune rabbi qui ne se plie pas aux traditions. Jésus vient de chasser, par exemple, les marchands du temple. Mais parce que c'est de nuit, cette rencontre nous interpelle. De la part de Nicodème, simplement, peut-être une démarche pour préserver sa réputation de notable et éviter les ragots, sans doute. Est-ce aussi peut-être parce que la nuit est le temps de la réflexion dans la tradition juive? Peut-être. Ou tout simplement, mais de façon essentielle, Jean l'évangéliste a-t-il voulu signifier la force symbolique de la confrontation de la nuit et de la lumière? Quoi qu'il en soit, c'est lui, Nicodème, qui ouvre le dialogue et questionne. « Rabbi, nous savons que comme maître, tu viens de la part de Dieu. En effet, personne ne peut faire des signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Dialogue, on peut en douter. Confrontation, sans doute. C'est un faux dialogue, parce qu'il est évidemment clair que Nicodème ne dit pas des bêtises du genre de naître quand on est âgé, et que c'est donc une espèce de technique de manœuvre pour cerner un peu mieux, d'un peu plus près, la pensée de Jésus, ou pour la débusquer, pour la faire apparaître. L'autre, c'est-à-dire Jésus, ouvre une autre perspective, bien différente. « Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il vous faut naître à nouveau d'en haut. » Cette incompréhension apparente, totale, et cette surdité, c'est bien la nôtre. Nous le vivons au quotidien, incapables de distinguer, je cite, « les choses de la terre, des choses du ciel ». Alors, au-delà de cette rencontre nocturne de Jésus et de Nicodème, se profile une autre rencontre, celle de nous-mêmes et de l'Esprit. La seule qui vaille. Bien sûr, nous pouvons demeurer dans le confort de nos impressions et certitudes. Nous pouvons nous satisfaire des apparences. Mais la grâce nous est donnée. Elle existe, secrète en nous, autour de nous, discrète. Elle, et elle seule, la grâce, nous donne l'occasion de briser le plafond de verre qui nous entoure, qui nous enserre, qui nous étouffe. Ma grâce te suffit. Elle seule nous donne d'accéder à un monde autre qui est en nous, au plus profond de nous, et qui jusque-là nous était peut-être inconnu, ignoré, imperceptible. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix. Instant unique que chacun d'entre nous a pu vivre, peut-être. Instant privilégié où la lumière de l'esprit nous inonde, nous fait grandir sur le chemin de la vie, sur le chemin de notre vie. Cette rencontre de l'esprit, en dernier lieu, nous conduit à une rencontre avec nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. Un constat d'abord. Accéder à ce monde jusque-là inconnu, ignoré, déroutant, ne peut se faire que par une énergie, celle de la foi. Peu importe, la foi du charbonnier, comme on dit, ou bien la foi au prix du doute, dont parle Jacques Ellul. Cette foi seule nous donne d'accéder à ce monde où l'on perçoit le souffle du vent, c'est-à-dire, en fait, le souffle de l'esprit. Ensuite, des questions. Quelle voie suivre? Quel choix faire? Quelle parole prononcer? Nul ne peut répondre à votre place, à notre place, car il n'existe pas de vérité absolue, permanente, voire éternelle. Alors, aux descendants des Huguenots qu'il y a peut-être ici, qu'il y a sans doute ici, rappelez-vous la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Quel désarroi! Fallait-il se taire et accepter? Fallait-il rester fidèle à ses risques et périls dans une clandestinité sévèrement réprimée? Fallait-il prendre le chemin de l'exil? Fallait-il se révolter dans une révolte vaine, comme le firent par exemple les Camisards? Autant de questions, mais pas d'indications claires. Je pense aussi au plus près de nous, aux jeunes des mouvements de jeunesse catholique pendant la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, ça concerne très directement la Haute-Savoie. La JAC, Jeunesse Agricole Catholique, la JOC, Jeunesse Ouvrière, qui, dans les années 43-44, sous l'occupation, s'engagèrent dans des camps opposés. Ceci a été établi par des historiens dans un séminaire auquel nous avons participé. Pour les uns, la milice, c'était la voie à suivre dans un combat contre l'athéisme communiste. Pour les autres, là c'est plutôt la région du Chablais, pour les autres, la région de Thônes, la résistance était un combat pour la liberté et contre le fascisme. Quelle rencontre cette nuit-là! Que de questions, comme nous venons de le voir, mais aussi en même temps des certitudes. Quelques certitudes. D'abord, la certitude que notre action vaut témoignage. Je cite verset 11. « en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. » Ensuite, certitude que nous sommes invités à vivre au plus près de la lucidité, au plus près du discernement, par la nouvelle naissance, par la renaissance qui nous est proposée et qui nous est donnée de vivre. Certitude, enfin, peut-être la plus importante, qu'il nous revient d'être des veilleurs, c'est-à-dire d'être à l'écoute, d'être prêt à percevoir, à reconnaître le souffle, le moindre souffle, le souffle de l'Esprit. Il est présent en nous, dans chaque être que nous rencontrons, dans chaque être que nous côtoyons. Alors, la lumière qui est en nous peut s'épanouir, va s'épanouir et nous donne de vivre en plénitude. Plus encore, elle nous donnera la force et le courage de témoigner. Amen. Thank you.